Le Salon Noir. Il est l'objet de toutes les convoitises, les spéculations. L'argent, mieux le numéraire, a aussi suscité une invraisemblable inflation de mots. Même l'euro et son passage nous ont fait passer dans le langage populaire de la brique au boulon. Bien entendu, les sciences se sont penchées sur le système monétaire, maths, économie, histoire et l'archéologie, me direz-vous. L'archéologie nous a surtout apporté du rêve et de fabuleux trésors, le plus important au monde exhumé en Afghanistan, d'autres plus modestes, 554 pièces d'électrum dans le talus d'une ferme gauloise et que les archéologues dénomment pudiquement « dépôt monétaire ». Ce Salon Noir ne s'intitulera pas pour autant « Qui a caché des millions ?». Je lui préférerais presque le titre du film de Comencini, « L'argent de la vieille », âgé tout juste de 40 ans. Ce que nous tenterons aujourd'hui est une approche à la croisée de l'archéologie, de l'anthropologie et de l'histoire, afin de comparer tous ces systèmes. Patrick Pion, Bernard Formoso, bonjour.
Bonjour.
Patrick Pion, vous êtes bien entendu archéologue, spécialiste de l'âge du fer. Vous avez aussi récemment fouillé au cœur de Paris le site du musée du Quai Branly. Vous êtes surtout maître de conférences à l'université Paris-Ouest Nanterre, La Défense. Bernard Formoso, vous représenterez dans ce Salon Noir l'anthropologie, puisque vous êtes professeur et enseignez l'ethnologie dans cette même université. Vos terrains sont aussi exotiques que ceux de Patrick Pion, l'Asie du Sud. Sud-Est, la Chine et la Thaïlande. Vous avez surtout tous deux organisé un colloque à la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie de Nanterre autour de la monnaie, aujourd'hui paru sous le titre « Monnaie antique, monnaie moderne, monnaie d'ailleurs, métissage et hybridation » aux éditions de Bocard. Patrick Pion, on parle toujours de la naissance de l'écriture, ce moment qui nous ferait passer de la préhistoire à l'histoire. Dans un autre champ, la naissance du système monétaire ne serait-il pas encore plus important ?
Alors pour ce qui est de la naissance de l'écriture, c'est effectivement un phénomène absolument décisif dans l'histoire de l'humanité qui s'est opéré en plusieurs endroits du globe à des moments plus ou moins concomitants. Mais on peut se poser la question du caractère fondamental de cet événement dans l'histoire des sociétés comparé à d'autres phénomènes comme effectivement le phénomène monétaire. Alors resterait à savoir ce qu'on met derrière la définition de monnaie et de système monétaire parce que les hommes échangent depuis des millénaires. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle écriture et système monétaire sur le plan des systèmes à mémoire. L'écriture, c'est une façon fantastique d'accumuler, de stocker la mémoire des hommes et de leur vie, de leurs événements. Quelque part, les systèmes monétaires sont aussi des systèmes à mémoire sur un autre registre. Est-ce que l'un est plus important que l'autre ? Je n'en suis pas convaincu, c'est toujours un peu arbitraire comme comparaison.
En tout cas pour moi, par exemple, l'important c'est bien sûr la naissance des sociétés de production et non pas l'écriture. Hein. L'écriture n'est qu'un épiphénomène, donc le néolithique me paraît peut-être plus important. Et la monnaie est un formidable plus pour ces sociétés de production.
Alors là, on part dans une vision qui est un peu économiciste de la monnaie, sur laquelle je pense on va revenir au cours de cette émission. La monnaie, c'est pas seulement un médium de l'échange, ou du moins, ça n'est pas la dimension économique n'est pas la seule dimension de la monnaie, loin de là.
Justement, Bernard Formoso, que recouvre la monnaie ? Comment fut-elle appréhendée tout d'abord ? Comme un instrument entièrement dédié à l'activité économique ? Jusque-là, tout paraît à peu près clair.
Si vous voulez, aujourd'hui s'impose une vision, je dirais, institutionnaliste de la monnaie qui tend à considérer que les objets qui assument la fonction monétaire sont des objets essentiels pour tisser du lien social. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut rappeler les quatre fonctions essentielles de la monnaie, à savoir qu'elle sert d'étalon de valeur. au sens où elle permet de mesurer la valeur de toute autre sorte d'objet. Ça, c'est une première fonction. La deuxième fonction, c'est celle de moyen d'échange, celle qui nous est la plus familière, je dirais, en ce sens que l'objet monétaire permet de médiatiser la circulation des marchandises. Et la troisième fonction, qui est peut-être plus compliquée, bien qu'elle nous soit aussi familière, c'est celle de moyen de paiement, au sens où la monnaie permet de s'acquitter d'obligations sociales. Je pense notamment aux impôts, on les doit à l'État pour le bien public. Je pense aussi à des amendes lorsqu'on commet des infractions.
Ou au Dieu, peut-être au Dieu même.
Et
aussi.
Également, effectivement, les services qu'on sollicite auprès des dieux amènent des retours et ça rentre dans ce registre-là des moyens de paiement. Et enfin, la dernière fonction, c'est celle de réserve d'épargne. On thésaurise avec des biens monétaires. Et si vous voulez, si on adopte une conception élargie de la monnaie, il suffit que l'une de ces fonctions soit assumée par un objet pour que celui-ci puisse être qualifié d'objet monétaire.
Alors ça, c'est une approche qui a été développée par un courant que vous appelez les substantivistes, c'est ça ? Donc une approche qui n'était plus européocentrique et qui n'était plus non plus dans une sorte d'évolutionnisme ?
Tout à fait, je dirais, le grand mérite des auteurs qu'on qualifie de substantivistes. Le chef de file de ces auteurs-là était Karl Polanyi, mais on peut aussi mentionner d'autres auteurs comme George Dalton, Paul Bohanan. Ces auteurs, dans les années 50, ont extrait en quelque sorte le phénomène monétaire de cette approche européocentrique qui prévalait jusqu'alors, qui réduisait à des objets métalliques et au numéraire la qualité, je dirais, monétaire. Voilà. Et donc ça a permis de considérer, ça renvoie un petit peu à la question que posait tout à l'heure mon collègue, ça a permis de considérer que finalement, depuis, je dirais que les sociétés existent, des objets monétaires assurent ce lien social et créent des régimes d'obligations sociales envers les dieux ou envers les hommes qui sont fondamentaux pour le fonctionnement des sociétés.
Alors, pour résumer, ce que vous dites, c'est que pour les substantivistes, il suffit que le numéraire remplisse une de ces quatre fonctions pour le dénommer monnaie. Ça veut dire, par exemple, si je pousse un peu plus loin, qu'il existe de par le monde des monnaies qui seraient strictement étalons de valeur ou strictement des réserves d'épargne ?
Généralement, si vous voulez, les objets sont appréciés en vertu de la fonction monétaire par référence à la fonction de moyen de paiement ou de moyen d'échange. C'est vrai qu'à l'époque antique, des objets servaient presque exclusivement d'étalons de valeur. Pour certains secteurs de l'activité, notamment pour la rétribution des fonctionnaires de l'État, ils servaient également de moyen de paiement. Voyez, en général, on retrouve les deux fonctions. La fonction simplement d'étalons de valeur ou de réserve d'épargne suffit pas à qualifier un objet comme étant un objet monétaire, à mon sens.
Bernard Formose, la monnaie peut donc recouvrir une très vaste gamme d'objets.
Tout à fait.
Il n'y a pas que le métal, loin de là.
Loin de là, on a des collègues ethnologues qui ont montré que dans certaines sociétés de Nouvelle-Guinée, des barres de sel, je pense notamment à Maurice Godelier, avaient montré que des barres de sel servaient de moyens monétaires dans les relations entre les tribus de Nouvelle-Guinée. Alors, vous allez me dire, oui, mais les barres de sel, ça se consomme aussi. Effectivement, on consommait ce sel-là. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des monnaies à usage multiple. C'est-à-dire qu'elles servent leur valeur d'échange et je dirais, concomitante d'une valeur d'usage.
Bernard Formose, on connaît bien sûr l'œuvre magistrale de Marcel Mauss et cet article sur le don et le contre-don. Un article qui pourrait être encore d'actualité. Les anthropologues travaillent-ils encore aujourd'hui sur cette réciprocité ?
Tout à fait. Je dirais que c'est même un aspect essentiel de la vie des sociétés, y compris les nôtres. Je dirais que l'activité marchande est soutenue par la pratique du don. On connaît ça à travers les pratiques de discount, de cadeaux pour fidéliser les clients. Mais pour revenir aux travaux de Marcel Mauss, ce sont des travaux qui ont été fondateurs parce qu'ils montraient que finalement l'acte de don n'est pas toujours et loin de là un acte gratuit. C'est un acte qui implique en retour l'obligation de recevoir d'abord, parce que sinon on rompt le lien social, et l'obligation, sous une forme différente et différée, de rendre. Et donc, dans toutes les sociétés, ces principes de réciprocité-là sont au fondement même de la vie en société.
Alors, vous citiez Maurice Godelier, je citerai Marshall Salins, l'autre géant de l'anthropologie sociale contemporaine, qui, lui, parle de réciprocité équivalente ou inégale par moment.
Tout à fait.
De quoi s'agit-il exactement ?
Marshall Salins dégage trois types de réciprocité. Une réciprocité généralisée qui correspondrait à ce que nous, on connaît sous la forme du don. Ou de l'hospitalité, par exemple, c'est-à-dire qu'elle implique, si elle implique un retour, elle implique un retour, comme je le disais, qui est différé et différent, sous une forme autre. Donc ça présente l'apparence du don gratuit, en quelque sorte. Ensuite, il y a ce qu'il appelait la réciprocité équilibrée, où là, c'est l'activité d'achat-vente telle qu'on la pratique quotidiennement. Et enfin, une troisième pratique de réciprocité qu'il appelait la réciprocité négative, où il n'y avait pas, je dirais, d'équilibre entre ce que les prestataires échangeaient, c'est-à-dire que l'un recevait plus que l'autre. Voilà. Les formes extrêmes, je dirais, c'est le marchandage qui a abouti à des formes de circulation inégalitaire.
Patrick Pion, quand et dans quelles conditions apparaît la monnaie en Europe ?
Alors, si c'est l'apparition de la monnaie métallique telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle apparaît au VIe siècle en Lydie, donc en Asie mineure, chez des Grecs, avec ces énormes richesses qui étaient charriées par le fleuve Pactole. Et très très vite, ces premiers petits morceaux d'or mis en forme et estampés vont être adoptés par les cités grecques, avec des usages qui ne sont pas totalement clairs à l'origine, puisque les contextes de découverte sont essentiellement des contextes de sanctuaires, mais qui très vite va se généraliser comme moyen de paiement et aussi comme moyen d'échange dans certaines circonstances.
Oui, alors si je regarde toujours les quatre catégories, là visiblement on serait dans le mode de paiement. Hein, c'est bien ça, on offre Dieu.
Alors, on va ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait important. Les substantivistes, en introduisant cette distinction entre moyen de paiement et moyen d'échange, en disant que payer n'est pas acheter, ont donné un outil fantastique aux préhistoriens et aux protohistoriens pour appréhender sous un jour nouveau ces économies pour lesquelles on n'a pas de témoignage écrit. Et c'est ce qui a permis de faire la distinction entre système avec moyens objets de prestige qui servent justement de compensation, soit pour le prix de la mariée, soit en cas d'homicide, le prix du sang. Et ça, c'est des systèmes qui existent très très tôt, dès le néolithique. Et puis, ce qui se passe ensuite avec l'apparition de la monnaie métallique, ou du moins on suppose ce qui se passe à ce moment-là, l'introduction de monnaie comme moyen d'échange. Mais il n'est pas dit que ces monnaies, premières monnaies et moyens d'échange ne soient pas aussi des moyens de paiement.
Et puis le prix du sang, il y a les quelques beaux exemples chez les Barouilla, donc toujours bien sûr avec Maurice Godelier. Bernard Formoso, il s'agit là d'une véritable innovation, mais est-ce le plus vieux système monétaire du monde ? Est-ce que l'Asie du Sud-Est, par exemple, n'aurait pas aussi inventé quelque chose de propre ?
Tout à fait. Bon, on connaît la civilisation chinoise qui, très tôt, dans les premiers millénaires avant notre ère, a mis en circulation, a utilisé comme moyen d'échange courant les kauris, ces petits coquillages qui, aujourd'hui, par la suite, ont connu une diffusion planétaire, je dirais, et notamment ont servi pour la traite des esclaves en Afrique. Ils ont été diffusés en Afrique par les Occidentaux qui avaient, je dirais, monopolisé en quelque sorte l'utilisation de ces petits coquillages en prenant le contrôle des sites de production qui sont très localisés aux îles Maldives. Voyez, et donc, on voit que ces petits coquillages ont servi comme moyen d'échange à une époque très ancienne.
À peu près quelle époque ? Vous avez une idée de cette époque-là ?
On parle d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ, même au-delà. Et ensuite, on a utilisé, les Chinois ont produit des copies en bronze, à l'âge du bronze, de ces petits coquillages.
Alors ce qui est intéressant, j'ai lu ça donc dans le livre, c'est que les nègres marrons auraient toujours utilisé aussi ces coquilles. Il y aurait une sorte de détournement quelque part.
Il y a eu un détournement effectivement, ça a bien été étudié par un collègue dans le recueil, un détournement d'usage de ces objets qui, comme il le montre très bien d'ailleurs, ont servi pour le malheur, malheureusement, de ces noirs marrons qui se sont émancipés de l'esclavage en fuyant les plantations et qui maintenant considèrent, par un détournement effectivement de sens, par un renversement de sens, que ces coquillages-là peuvent apporter le bonheur. Hein, ils leur ajoutent des plumes d'oiseaux et ils deviennent des fétiches en quelque sorte qui permettent d'apporter le bonheur.
Patrick Pion, les Celtes ont attendu le 3e siècle avant notre ère pour émettre des monnaies. Cela paraît bien tardif par rapport au 6e siècle. Trois siècles.
Alors, le phénomène est lié à quelque chose de très important qui est l'émergence des royaumes hellénistiques et la pratique du mercenariat. Et en fait, les Celtes n'avaient pas, a priori, besoin de la monnaie comme moyen d'échange directement. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est une véritable révolution dans le monde celtique. À partir du 4e siècle, des contingents celtes, qui ne sont pas les aînés de famille, qui sont plutôt des cadets, vont aller s'enrôler comme mercenaires, mais sont de véritables troupes qui sont constituées au profit ou sous le commandement de ces rois hellénistiques.
Et sur vont les Galates, demander... par exemple, non ? Alors, ce sont les Galates, les Galates d'Asie mineure.
Alors, les Galates d'Asie mineure sont un fossile, si l'on peut dire, de ces événements, de ces grands mouvements de troupes qui ont traversé le monde nord-méditerranéen dans le millénaire qui précède le changement d'air. C'est une de ces troupes qui est restée, qui s'est installée là-bas. Mais la plupart des autres contingents sont allés se battre et se vendaient aux plus offrants en exigeant un paiement en or, parce que l'or, c'était le matériau qui les intéressait. C'était le bien de prestige par excellence, celui qui était pratiqué à travers d'autres objets comme moyen de sacrifice aux dieux et comme moyen de compensation. Et tout d'un coup, on voit ces gens qui étaient tenus à l'écart de l'accès à ce matériau en avoir à foison. Et ça a introduit un profond déséquilibre dans les sociétés celtiques à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que... quelque part, les Celtes n'ont pas adopté la monnaie d'or qu'ils ont imitée de celle de Philippe II de Macédoine pour la région sur laquelle je travaillais. Ils ont adopté en fait la pratique du mercenariat qu'ils ont importée et mis en œuvre à l'intérieur de leur propre société. Et c'est par la pratique de ce mercenariat que s'est introduite la monnaie d'or. Non pas comme un moyen d'échange, mais comme un moyen de paiement de services armés auprès de gens qui, auparavant, ne se seraient jamais battus ensemble.
Patrick Pion, Bernard Favozzo, je rappelle pour nos auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes respectivement archéologue et anthropologue, maître de conférences et professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, et que vous venez de publier un ouvrage sur la monnaie, qu'elle soit antique, moderne ou d'ailleurs. Patrick Pion, vous associez la monnaie au torque. Le torque, c'est bien sûr ce collier rigide des Celtes. Deux éléments capitaux qui vont affirmer désormais le poids du guerrier dans la société celte.
Alors, pour vous répondre, on a là justement une hybridation extraordinaire qui s'opère entre deux choses complètement différentes au départ. Le torque est l'élément, le moyen traditionnel de paiement, de compensation et de paiement aux dieux. Quand les mercenaires reviennent dans leur groupe d'origine avec ces quantités d'or, ils pourraient les transformer en torque simplement. Ils ne le font pas parce que ce n'est pas un moyen de paiement de la bravoure. Ce qui est nouveau, c'est que avant ces événements du 4e, 3e siècle, la bravoure du soldat, c'est un point d'honneur, mais ça ne se paye pas. À partir du 4e et du 3e siècle, on va pouvoir instaurer des réseaux de clientèle en payant des soldats à son bénéfice. Et donc, on a un changement complet des formes de mobilisation des guerriers qui va être transversale par rapport aux systèmes segmentaires et verticaux qui existaient auparavant, où on s'associait par lignage, par clan, par tribu ou par ethnie. Là, on aura quelque chose de transversal. On va avoir à l'intérieur même de ces groupes le ferment de profondes divisions qu'on retrouve au sein des familles à l'époque de César, d'ailleurs.
Alors, pourquoi l'or ? Maurice Godidier le dit, l'or est un matériau inutile dans la vie quotidienne, mais essentiel dans la vie rituelle et l'exercice du pouvoir. Les Gaulois réclament de l'or pour eux ou pour les dieux ?
Pour les deux, avec ce système qui se met en place. Auparavant, l'or était réservé aux dieux ou aux personnages insignes qui étaient les intermédiaires entre les populations et ces dieux. À partir du moment où les mercenaires introduisent la monnaie, on a affaire en fait aux deux fonctions qui se trouvent mêlées. Et justement, la façon dont a pu se légitimer ce nouveau système, c'est par l'hybridation de la monnaie d'or avec le torque qui était le bien de prestige par excellence.
Bien sûr, de nombreux trésors celtiques ont été découverts. Très souvent, on s'aperçoit sur les monnaies enfouies qu'elles n'ont absolument pas circulé. Est-ce que l'on a affaire à une sorte de thésaurisation, une sorte de transfert de richesse et est-ce qu'elle, sans échange, ça pourrait être ça?
Alors là, il faut renvoyer à des données de l'anthropologie qui sont indispensables pour avoir une autre lecture que celle qui a été donnée traditionnellement de ces dépôts monétaires qui étaient vus comme simplement des thésaurisations. Quand on regarde la composition des quelques dépôts qui n'ont pas été refondus et qui sont conservés, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte, d'une part, ces monnaies n'ont pas circulé. Elles sont fraîches, elles sont à fleur de coin, comme disent les numismates. Et puis, d'autre part, ce sont souvent des dépôts qui sont constitués du même type ou de la même série, donc des entités uniques. On a l'impression, en réalité, que au moment... Alors, il y a un autre fait aussi, c'est qu'on a beaucoup de coins qui sont utilisés. Donc, on a en fait des émissions monétaires en abondance, dont il ne reste que ces dépôts. Et la lecture qu'on peut donner aujourd'hui de ce fait, à la lumière des données de l'anthropologie, c'est qu'on a plutôt affaire à un prélèvement au moment de l'émission de ces énormes masses monétaires, d'un prélèvement qui ne va pas circuler, qu'on va enterrer dans des conditions qui sont plus ou moins ritualisées et qui sera la partie fixe, inaliénable du groupe par rapport à ce qui est en circulation. C'est ce que montre Maurice Godelier dans plusieurs de ses articles pour d'autres types d'objets.
En tout cas, la monnaie, c'est par force, bien sûr, l'étalon. Longtemps différents étalons, différents systèmes monétaires se côtoient en Gaule. Il pourrait donc y avoir différentes approches et usages de la monnaie chez les Celtes.
Alors, on ne peut pas parler de monétarisation du monde celtique de façon globale, comme si on avait affaire à un phénomène, une espèce de vague qui va couvrir cet immense territoire. En réalité, ce qu'on avait déjà montré avec Catherine Gruel, c'est qu'on a des situations très très différentes selon les parties du monde celtique dans lesquelles on se trouve, et que vraisemblablement, les chemins même de cette première monétarisation métallique, ont été différents selon les régions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ces usages même de la monnaie métallique ont varié d'une région à l'autre. On a l'exemple dans cet ouvrage avec la façon dont la monétarisation se fait, par exemple, dans le sud de la France, avec le travail de Dominique Garcia, qui montre que là, on est plus particulièrement dans le domaine des échanges, alors que pour ce qui est de l'Ibérie ou du sud-ouest, de l'Aquitaine, ou d'autres parties plus septentrionales du monde celtique, on a clairement affaire à une introduction liée à la pratique du mercenariat.
Tentons de voir bien sûr aussi d'autres sociétés passées. Bernard Formoso, est-il possible que certaines sociétés n'aient absolument aucun système monétaire, même si primitif soit-il?
Écoutez, dès lors qu'on considère que il y a des obligations sociales et rituelles à accomplir, que les hommes vivent en relation avec des divinités, les moyens monétaires existent dans toutes les sociétés, au moins sous la forme de moyens de paiement. Donc, des sociétés sans véritable objet monétaire, je ne pense pas qu'elles existent.
Et qu'entend-on par monnaie dite primitive?
Écoutez, c'est des objets qui ne relèvent pas du numéraire tel que nous, on le connaît en Occident. Voilà, donc on a tendance à réduire ces objets à un caractère premier qu'ils n'ont pas nécessairement.
Qu'est-ce que recouvrent ces monnaies? Elles seraient l'équivalent de quoi, de fait?
Écoutez,
elles faut bien partir de quelque chose.
Tout à fait, elles présentent une grande variété de formes et de matières, je dirais, parce que dans certaines sociétés, ce sont des animaux tels que des buffles qui font objet de moyens de paiement, notamment pour les prestations matrimoniales ou pour les paiements du sang versé. Dans d'autres sociétés, je l'ai mentionné, ça peut être des coquillages, ça peut être des barres de fer. Ça peut être aussi des objets monétaires émis par des puissances, notamment les puissances colonisatrices, et qui ont été détournés de leur usage premier.
Oui, j'ai lu aussi que c'était une sorte de substitut humain, c'est bien ça ?
Tout à fait. Dans de nombreuses sociétés, les biens monétaires servaient de substitut humain. Et je peux prendre l'exemple d'une société qui s'appelle les Kwakiutl, qui vivent dans l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, donc au Canada, et une société où des blasons de cuivre, qui étaient chacun d'ailleurs pensé comme ayant une intériorité, une personnalité, et qui, je dirais, était investi d'un pouvoir supranaturel, en ce sens qu'ils étaient considérés comme des dons des dieux, que ces objets-là, par leur codification, par leur forme, étaient conçus à la manière d'êtres humains et servaient d'ailleurs de substitut aux êtres humains. C'était une société où on pratiquait l'esclavage. Et lorsque un chef Kwakiutl était décédé, il était d'usage qu'on tue tous les esclaves qui étaient à son service et qu'on les enterre avec lui. Et on pouvait substituer à ces esclaves, à ces vies humaines, on pouvait substituer des blasons de cuivre.
La mer unit, la montagne divise, disait bien sûr Fernand Braudel. Bernard Formoso, vous avez justement travaillé sur les montagnards d'Asie du Sud-Est. Qu'en est-il de la monnaie chez eux ?
Ben écoutez, d'abord ce qu'il faut préciser, et je dirais qu'on est habitué à des monnaies unifiées, hein, qui je dirais, définissent des aires de souveraineté. En Asie du Sud-Est, et chez les montagnards en particulier, d'Asie du Sud-Est, on a affaire à un très grand éclectisme, c'est-à-dire que plusieurs objets font office de biens monétaires. Hein, donc, vous avez plusieurs objets qui concurremment circulent. Certains servent plutôt comme moyen de paiement, et je pense notamment au piastre qui avait été émis par la France à l'époque coloniale, ces piastres de commerce qui circulent encore aujourd'hui, je dirais, à l'intérieur des populations des confins de la Chine, l'Asie du Sud-Est, et qui servent notamment à la thésaurisation qui sont des biens de renommée qu'on arbore sur les tuniques et les costumes dans les grandes fêtes.
Alors, ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que le vrai étalon, ce n'est pas l'or, c'est l'argent.
Tout à fait. Je dirais que l'or, en tant qu'étalon de valeur, c'est plutôt du côté de l'Occident qu'il faut se reporter pour le considérer comme tel. Et qu'en Asie, c'était essentiellement de l'argent ou du cuivre dans l'espace chinois. Mais par exemple, la roupie, ça veut dire argent en sanskrit et... C'est à la base même de la circulation monétaire dans ces régions.
Patrick Pion, Bernard Formoso, merci beaucoup. Et puis donc, je rappelle le titre de votre livre, Monnaie antique, monnaie moderne, monnaie d'ailleurs, métissage et hybridation, qui vient de paraître aux éditions de Bocard. En partenariat avec France Culture, une série de conférences débuteront à partir du lundi 17 septembre au Théâtre du Rond-Point à Paris, bien sûr, à côté des Champs-Élysées. Le thème, dans le ventre de la grotte Chauvet, qui tente désormais d'être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à un sujet toujours brûlant, absolument formidable. Intelligence avec l'ennemi, l'archéologie française a-t-elle collaboré ? Bien sûr, avec Laurent Olivier. Le Salon Noir était réalisé par Dany Journeau, la technique Jean-Frédéric, attaché d'émission Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.